Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il démondialiser le transport maritime ? Ils sont énormes, capables de transporter des milliers de voyageurs, de supporter des charges jusqu'à 20 000 containers. Ils symbolisent la globalisation du tourisme, le libre-échange économique. Ce sont les géants des mers, des bateaux toujours plus gros, toujours plus puissants, toujours plus compétitifs. 90% du transit mondial de marchandises passe aujourd'hui par les océans, de véritables autoroutes de la mondialisation, pour des bateaux en apparence peu nocifs, puisque responsables de seulement 3% des émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'à ce rythme, c'est-à-dire celui d'une progression constante du trafic maritime, l'impact environnemental s'annonce beaucoup plus important, d'autant qu'aux effets directs s'ajoute la dangerosité de ces navires en cas d'accident. Les marées noires et les naufrages de navires de commerce sont là pour le rappeler, ainsi que les collisions parfois mortelles de ces grands ingouvernables que sont les paquebots de croisière. Face à ces défis, de nouveaux modes de navigation maritime plus respectueux de l'environnement sont en train d'être développés, mais n'est-ce pas le trafic qu'il conviendrait de mieux réguler ? Alors, faut-il démondialiser le transport maritime ? C'est le thème de la discussion de ce soir en compagnie de trois invités. Olaf Merck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert du transport maritime et des ports. Vous êtes membre du Forum international du transport de l'OCDE. Pour discuter avec vous, Charlotte Nittard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez l'association Robin des Bois, qui est une ONG qui œuvre à la protection de l'homme et de l'environnement. Vous aviez publié en 2010 chez Stock le cargo de la honte, l'effroyable odyssée du Probo Koala. C'était un navire qui avait pollué les côtes ivoiriennes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ça remonte à une bonne dizaine d'années.
Hein. 2006, oui.
Et puis notre troisième invité est au téléphone. Il est à Bordeaux. C'est Paul Touré. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, spécialiste des industries maritimes, navales et portuaires, et vous êtes le directeur de l'ISMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime.
Toute sirène hurlante, le paquebot ne parvient pas à s'arrêter. Il percute le quai et un bateau touristique qui était accosté. Malgré l'obstacle, il continue sa course folle. Mouvement de panique. Le bateau était tiré par un remorqueur pour aborder le quai. Mais le commandant avait signalé une panne moteur. Celui-ci est resté bloqué en mode poussé, impossible de s'arrêter. Il y a 4 blessés, dont 2 personnes hospitalisées. Le MSC Opéra est un géant des mers de 275 mètres, haut comme un immeuble de 12 étages. Il naviguait dans le canal de la Giudecca. L'accident relance la polémique sur ces paquebots de croisière qui par dizaines chaque jour accostent à Venise. Ils rapportent 430 millions d'euros chaque année, mais pour les Vénitiens, il faut les interdire.
Le reportage de TF1 diffusé le 2 juin dernier à propos de cette collision dans la lagune de Venise. Collision qui n'a fait que 4 blessés. Quand vous entendez ce reportage, et peut-être avez-vous vu également les images, Charlotte Nittard, qu'est-ce que vous dites ? Plus de peur que de mal finalement ?
Ah, ils ont eu vraiment de la chance parce que il y avait un autre petit bateau de croisière beaucoup plus petit qui était juste devant, qui a été éperonné, mais il y avait personne sur la passerelle. C'est un avertissement. Le problème dans le domaine de la sécurité maritime, c'est qu'il faut toujours un accident majeur pour que, notamment l'Organisation Maritime Internationale qui s'occupe de réguler ce trafic, prenne des mesures fortes et efficaces. Les gros navires de croisière. Là, c'était un navire de taille encore modeste, mais il y en a des beaucoup plus grands avec 8000 personnes qui sont à bord. Et il n'y a absolument pas d'anticiper, non seulement l'accueil dans les ports. Là, c'est Venise. Ça pose un énorme problème aussi d'impact paysager puisque ces bateaux sont moches, faut quand même le dire. C'est des barres HLM qui débarquent dans des cités historiques et les moyens de sauvetage ne sont pas adaptés. En cas d'avarie en pleine mer, pour évacuer 8000 personnes, c'est tout simplement impossible. En cas d'incendie, c'est impossible, avec des gens qui sont en plus de ça souvent à mobilité réduite, des personnes âgées. Donc ça pose des énormes problèmes en cas d'accident, mais aussi en routine, avec les rejets d'eau usée notamment.
Vous les trouvez moches, vous, ces bateaux, Olaf Merck ?
Bon, c'est une question de goût, hein. Je veux dire,
Il y a beaucoup de gens qui vont aussi les voir accoster parce que c'est quelque chose d'assez de tellement monumental que c'est presque un spectacle aussi de les voir arriver. Bon, un spectacle manifestement un peu dangereux, en l'occurrence.
C'est sûr, c'est impressionnant. C'est ça. Est-ce que c'est moi, c'est pas vraiment ça la question, hein. La question, c'est effectivement une question de pollution, de sécurité, et aussi dans des petites villes comme Venise, finalement, une question de soutenabilité, hein. Est-ce que c'est soutenable?
Soutenabilité, c'est-à-dire?
C'est-à-dire,
est-ce parce qu'il y a trop de passagers à bord et qu'il y a trop de personnes ensuite qui arrivent en ville?
Voilà.
Ou bien c'est soutenable pour les ports parce que les infrastructures ne sont pas faites pour ça?
En général, dans les ports comme Venise, les infrastructures sont là. Hein. Ce que je veux dire, c'est finalement, est-ce que ça apporte quelque chose à la ville, aux citoyens? Est-ce que ça apporte quelque chose quand on compare ça au risque?
Est-ce que vous partagez cet avis très négatif, on va dire, Paul Touré, par rapport à ces bâtiments qui permettent, je me permets d'ajouter quand même aussi à un certain nombre de personnes, d'accéder à ce mode touristique qui était plutôt réservé à des gens fortunés jusque-là? La croisière avait une image de luxe, ça s'est énormément popularisé, et forcément si ça se popularise, il y en a beaucoup plus aujourd'hui.
Alors, en venant de Saint-Nazaire, vous savez, où on construit les plus gros paquebots du monde, j'entretiens un léger droit de réserve. Mais c'est vrai qu'on est sur des unités qui sont de plus en plus grosses, qui dépassent des fois la capacité d'accueil d'une ville, s'il y en a plusieurs, ou d'une île, hein, parce qu'on a le cas en Grèce ou dans les Caraïbes. Alors, on commence à aller vers ce qu'on appellerait la croisière acceptable, qui est à la fois un verdissement de l'industrie par les armateurs eux-mêmes, mais aussi des solutions portuaires, et puis sans doute aussi des exigences de tourisme moins massif. Alors, d'un autre côté, si on devait accueillir 8000 personnes pour 3 heures dans une ville, est-ce que le bateau n'est pas le meilleur moyen aussi d'offrir de la pression touristique acceptable? Parce que on peut le voir à Barcelone, hein, les gens n'arrivent pas qu'en bateau, et les problèmes sont pas que ceux des navires de croisière. C'est aussi peut-être notre rapport au tourisme, et ça revient un peu sur votre question principale, c'est est-ce qu'on peut aussi démondialiser le tourisme et le rendre plus acceptable?
Ben oui, parce que si les gens n'arrivent pas en bateau, ils vont peut-être arriver en avion, en bus, en voiture. Du point de vue de la pollution, ça ne change pas grand-chose. C'est peut-être alors la question du tourisme de masse qui est posée à travers ces paquebots, Charlotte Nittard.
C'est la question du tourisme de masse. Bien entendu, pour nous aussi, surtout une question de sécurité maritime et de pollution. C'est-à-dire, c'est des navires dont les rejets atmosphériques sont considérables, qui représentent à peu près l'équivalent, quand ils sont à quai, de 10, 15 ou 20 000 voitures par jour, avec, je vous ai dit, des rejets aussi d'eau grise, donc les eaux de la douche, etc., qui sont rejetées sans traitement. Normalement, les eaux noires, pour parler concrètement, les toilettes sont traitées quand tout fonctionne bien, mais il y a un vrai problème de sécurité maritime. Et en cas de collision, de bascule, d'incendie, à l'heure actuelle, il n'y a pas les moyens pour sauver ces personnes qui, comme vous dites, veulent accéder à une croisière. Il n'y a pas moyen de leur sauver la vie. Et c'est bien là le problème. D'autre part, j'ajouterais par rapport à votre introduction, accéder à la croisière, alors le mot est toujours là, il y a toujours le mot croisière, mais ça n'a plus rien à voir avec un navire de croisière dont l'objectif était de faire découvrir des mers, des ports, avec des escales qui étaient longues, une rencontre avec la culture locale. Là maintenant, c'est des navires, je vous dis, c'est 8000 personnes, 6000 personnes, bon, peut-être des fois c'est 3000, c'est seulement 3000, dans des cabines qui sont petites,
avec mais ce sont aussi des gens qui économisent peut-être aussi pour se payer de ce genre de
bien
voyage,
sûr,
parce que ça représente quelque chose d'important, de très attirant. Il faut aussi
ça peut jouer. Il y a des clients, hein, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il faut inventer un autre tourisme, et que d'aller dans un immeuble flottant avec 3 casinos, 4 toboggans, un théâtre, etc. En fait, c'est là-dessus que jouent beaucoup les compagnies de croisière. C'est sur les aménités, et c'est là-dessus qu'elles se font de l'argent aussi.
C'est sur la taille des bateaux qu'il faut aussi peut-être jouer. Paul Touré, ne serait-ce que parce que, forcément, par nature, ce sont des paquebots qui font beaucoup d'escales dans les ports, puisque ça sert aussi à ça, c'est-à-dire ça sert à faire un certain nombre de visites touristiques, mais peut-être que tous les ports, toutes les villes ne sont pas en mesure d'accueillir des bateaux de plus en plus massifs.
Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu dur de faire une réglementation européenne ou nationale pour limiter. Maintenant, on pourrait se dire que sur la décennie, peut-être que, pas des quotas, mais en tout cas un système de maîtrise de ce tourisme. Encore une fois, ça vaut pour une ville méditerranéenne comme Dubrovnik, comme une île comme Santorin. À un moment, il faut maîtriser l'invasion touristique, mais encore une fois, elle se fait sous d'autres formes dans d'autres villes. Et c'est la régularisation maintenant de ce mode de vacances, parce qu'il faut pas oublier que les vacances ont changé et le tourisme de croisière correspond à cette envie des fois que une semaine dans l'année de se faire plaisir, d'aller dans des lieux d'exception ou plus simplement historico-touristiques. Mais c'est vrai que cette industrie de la croisière fait des choses qui sont aujourd'hui par rapport à des attentes de marché. Alors c'est vrai qu'avoir un hôtel club, des discothèques sur un seul bateau, encore une fois, il faut comparer. Est-ce que Benidorm est une meilleure idée qu'un géant des mers? Ces gros navires sont de toute façon peut-être, les trop gros sont peut-être pas forcément adaptés justement à des petits ports méditerranéens. On a peut-être l'occasion dans la croisière acceptable de sortir de, effectivement, comme ça a été évoqué avant, accidents, répression et contraintes, et peut-être aller doucement vers quelque chose de plus admissible en faisant discuter les territoires, les autorités portuaires et les pays.
Olaf Merck, qu'est-ce qui fait que ces bateaux sont de plus en plus gros? Ce sont des questions de rentabilité économique avant tout?
Oui, c'est des économies d'échelle. Ça, c'est simplement ça. Hein. On voit ça, pas seulement dans la croisière d'ailleurs, on voit ça dans beaucoup de domaines. Là, les années passées, on a vu ça dans le secteur des conteneurs. Là, c'était spectaculaire, mais bon, là, on voit ça aussi dans la croisière. La croisière, il faut peut-être le dire aussi, c'est finalement que 300 bateaux. Hein. Finalement, il y a 500 000 bateaux qui traversent à peu près le monde. La croisière, c'est bien sûr très visible, parce qu'ils visitent des villes, tout le monde peut voir ça, comme vous le dites, c'est un spectacle. Mais ils consomment beaucoup d'énergie quand ils sont taqués. C'est pour ça que ça pollue beaucoup et pour ça qu'il y a des impacts négatifs directs aussi pour l'environnement. C'est pour ça qu'on parle de la croisière. Mais bon, en fait, derrière, il y a tout un grand monde de transport maritime de fret qui est beaucoup plus large, plus important.
Ouais, si on veut parler de gens des mers, il faut d'abord s'intéresser aux fret et à ces porte-conteneurs. Alors j'ai vu, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que le plus gros navire au monde, c'est le OOCL Hong Kong. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui peut embarquer jusqu'à 21 413 conteneurs. Alors là, on imagine les économies d'échelle qui doivent être excessivement importantes. Mais Olaf Merck, alors je crois que c'est en préparant l'émission que vous nous disiez, ou c'est quelque chose que j'ai lu mais que vous avez écrit, que certes, pour les armateurs, ça fait faire des économies, mais par rapport aux coûts qui sont demandés en termes d'infrastructures, l'économie, elle n'est peut-être pas là pour tout le monde.
Exactement, c'est ça. Il y a des économies d'échelle qui sont pour une partie de l'échelle, on va dire. Il y a des coûts qui sont finalement imposés un peu au port, à l'infrastructure publique. Finalement, il y a aussi des impacts sur l'environnement, il y a des impacts sur beaucoup de choses. Et finalement, c'est les autres qui payent pour ça. En fait, il faut trouver un autre équilibre où il faut que finalement, quand l'armateur demande ou commande ces navires, qui prend ça en compte, qui a un système de coûts qui sont aussi pour lui finalement, parce que c'est pas le cas en ce moment.
Vous avez cette formule que je trouve très intéressante, il est temps de rendre visibles les coûts cachés de l'économie mondialisée en matière de transport maritime, Charlotte Nittard.
Ah, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'ils externalisent une grande partie de leurs coûts en imposant, nous on parle depuis le port 2000 au Havre et les gros travaux qui ont été faits il y a 20 ans, on parle de dictature du tyran d'eau, c'est-à-dire que c'est une poignée d'armateurs, hein, c'est 7-8 armateurs qui dominent le marché du fret maritime, et qui imposent leurs normes et qui imposent aux ports d'avoir des quais plus longs, plus vastes, les portiques qui vont avec, qui imposent des dragages aussi, parce que les sédiments, la vase qui sont au fond des chenaux doivent être en permanence dragués pour assurer la sécurité du navire. Donc ils sont très forts pour ça, pour externaliser les coûts qui finalement sont pris en charge par vous, par moi, par la collectivité, par les États. Et comme il y a une course mondiale des ports qui se font une concurrence absolument incroyable, même au sein de l'Union européenne, hein, entre Anvers, Hambourg, Rotterdam, c'est terrible, puis le Havre loin derrière. Donc tout le monde se sent obligé d'avoir les derniers portiques, les derniers outils numériques, et donc c'est une course comme ça vers l'avant, sans de régulateur, sans de convention internationale qui dit stop, on arrête.
Est-ce que vous partagez ce diagnostic, Paul Touré? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une prise de conscience aujourd'hui du fait que cette course en avant, eh ben, elle profite d'abord à ceux qui se font de l'argent, les armateurs, sur ces cargaisons, mais elle se répercute sur des coûts qui incombent à la collectivité?
J'ai bien peur que ce soit aussi vieux que le duo entre les ports et les navires. Si on se souvient, est-ce que le Grand Canal, qui est les grands aménagements dans l'estuaire de la Seine au niveau du Havre, ont été amortis? Est-ce que les polders des ports japonais ont été amortis? C'est pas sûr, et on est sur une industrie maritime qui évolue. Alors avant, elle évoluait sur des cycles de 20 ans. Maintenant, on a l'impression que tous les 5 ans, on a des nouvelles pressions. Et puis, on a des ports qu'on construit effectivement pour une centaine d'années. Et on peut se poser la question s'il n'y a pas un surinvestissement public. Alors, on le voit en Europe occidentale, aux États-Unis, au Japon, mais maintenant en Chine. Et puis, on le voit aussi en Afrique avec des projets qui peuvent être trop grands. Et la tentation de projets portuaires pharaoniques financiés par les Chinois, voulus par les États nationaux, et que le marché n'a pas forcément besoin. Et effectivement, c'est une espèce de dialectique qui est un peu difficile, et on a l'impression effectivement que les armateurs mettent une pression sur les autorités portuaires. Et dans tous les pays d'Europe, on a cette espèce de concurrence. Par exemple, entre Rotterdam et Anvers, on a des projets portuaires qui semblent des fois démesurés, même à l'échelle de la consommation future de conteneurs du marché européen.
Charlotte Nita a souligné l'absence de régulation en la matière, d'une autorité qui puisse dire stop. Alors, il y a l'Organisation Maritime Internationale. Est-ce que c'est pas à ça qu'elle est censée servir, Paul Touré?
Elle est censée plutôt encadrer les normes réglementaires et le fonctionnement. Elle n'encadre pas le marché et encore moins les problématiques portuaires qui relèvent des États-nations et ou des ensembles comme l'Europe.
Mais les normes réglementaires, ça ne pourrait pas toucher, par exemple, la taille de ces navires?
Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des problèmes XXL sur des navires XXL. On le voit avec un paquebot, quand il commence à avoir 8000 passagers, c'est pas facile à traiter. On n'a pas encore des incendies sur des 22 000, mais on a eu un 15 000 qui a posé problème dans l'océan Indien. Donc c'est vrai que l'OMI pourrait avoir une tentation de réglementer. Mais encore une fois, l'OMI n'est pas toute seule. À un moment, il faut aussi que des États le veulent, et notamment des États européens. Alors on le voit sur les réglementations environnementales, ça arrive. Sur les incendies à bord des navires, ça commence à pointer aussi son nez. C'est un ensemble. Il faut effectivement, les armateurs, on l'a dit au début, ne progressent que par l'accident et par la contrainte, et plus que par le marché, donc il faut être capable de porter des politiques publiques ambitieuses.
Olaf Merck, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, ces navires ont quand même peut-être atteint leur taille maximum et qu'ils ne peuvent plus être encore plus grands parce que ça pose peut-être des problèmes, là aussi, je ne sais pas, de navigabilité, j'en sais rien, ou bien justement d'infrastructures suffisamment adaptées, ou bien est-ce qu'on peut imaginer que ça va continuer à croître, qu'on aura des bateaux de plus en plus importants au fur et à mesure que la mondialisation des échanges va se poursuivre, si tant est qu'elle se poursuive?
Oui, techniquement, on peut imaginer ça. Il y a aussi des modèles qui prévoient encore des navires encore plus grands. Après, il y a des contraintes, effectivement. Il y a des ports qui ne sont pas capables de les accueillir. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ports qui sont intéressés à avoir des navires comme ça. Il y a une concurrence pour ça. En général, il n'y a pas beaucoup de ports qui vont dire « Bon, maintenant, on quitte cette compétition ». Après, on pourrait dire il n'y a peut-être pas assez de marchandises pour ces grands navires. Et c'était déjà le cas il y a quelques années, quand il y a quelques grands armateurs ont décidé d'aller plus loin. Il n'y avait pas cette marchandise. On était juste après la crise, mais ils ont quand même décidé de le faire. Alors moi, ma crainte, c'est effectivement qu'il y en a d'autres qui vont dire maintenant, et c'est probablement les Chinois qui vont le faire, qui vont dire, non, oui, on va encore vers une génération encore plus grande. Ils parlent des navires de 25 000 boîtes, hein, qui sont possibles. Et c'est pas seulement pour transporter le marchandise, c'est aussi, à mon avis, une sorte de stratégie. Une stratégie d'essayer d'avoir encore moins d'armateurs. Il y a 7-8 grands armateurs maintenant. L'ambition des Chinois, c'est d'être le plus grand et d'avoir peu de concurrence.
La compétition, d'ailleurs, Paul Touré, économique, dont on parle beaucoup en ce moment entre la Chine et les États-Unis, on la retrouve aussi dans le transport maritime, ou bien c'est un peu plus compliqué parce que, notamment avec la question des pavillons qui sont rattachés à certains pays, c'est peut-être un peu plus mondialisé, disons, cette question?
Alors, on est dans un monde qui est un peu moins marqué par la politique et en plus avec une forte emprise européenne et de familles d'armateurs. Donc, on a une espèce de dualité entre l'Asie et l'Europe. Des familles, on dit souvent coopération, des gens qui sont à la fois alliés pour prendre des positions dans un port ou sur une ligne, ou sur des services qui peuvent être ensemble et puis opposés sur une autre. Donc c'est un monde un peu particulier qui échappe un peu à la politique, mais par contre qui est très sensible à cette question-là, parce que aujourd'hui les guerres tarifaires, les guerres commerciales, c'est pas du tout bon pour les affaires du transport maritime. Encore une fois, la conteneurisation, et notamment avec ces navires géants, elle est faite pour un monde de libre-échange, un monde de commerce libre où tout le monde commerce avec tout le monde, où les Chinois exportent des millions de tonnes de marchandises dans le monde, où les Européens eux-mêmes exportent vers la Chine. On l'a vu avec les produits, les déchets, l'interdiction des déchets en Asie, ben, c'est pas bon aussi pour ce transport maritime parce que ça payait les coûts de retour. Donc ce monde a l'habitude de vivre dans un environnement très libéral et elle a besoin aussi d'un contexte économique libéral, d'où cette démondialisation qui ne les arrange pas puisqu'elle s'est formatée justement pour ce qu'on pourrait appeler l'hyperglobalisation.
Alors je rappelle justement la question qu'on pose ce soir, c'est: faut-il démondialiser le transport maritime, en compagnie du directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, Paul Touré, en compagnie d'Olaf Merck, qui est membre du Forum international du transport de l'OCDE, et de Charlotte Nittard, directrice de l'association Robin des Bois. Je voudrais quand même qu'on évoque avec vous ce qui s'est passé le 12 mars dernier au large des côtes françaises. Charlotte Nittard, c'est un navire de commerce italien, Grande America, qui sombre suite à un incendie. Il y a de fortes craintes de pollution au moment du naufrage de ce navire. Et puis depuis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose sur ce qui s'était passé. Qu'est-ce que l'on sait de ce navire? Il est par le fond avec sa cargaison. C'était beaucoup de véhicules, hein, c'est ça?
Il est par le fond avec à peu près, il avait 365 conteneurs, plus de 2000 voitures, une partie neuve, une partie d'usagers, puisque il allait toucher les côtes d'Afrique de l'Ouest, enfin, du Nord, de l'Ouest, et puis après partir vers le Brésil. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Tour. C'est aussi intéressant de voir que le trafic de conteneurs, c'est, et ça a été en tout cas pendant longtemps, moins maintenant, mais à l'aller des marchandises et au retour des déchets. Et là maintenant, les Chinois sont, les marchés asiatiques petit à petit en général, sont beaucoup plus réticents à accepter les déchets, donc ou interdisent l'importation de déchets, donc les conteneurs reviennent à vide. Mais dans l'équilibre financier, ce miroir marchandises-déchets arrangeait bien notamment les Européens.
Est-ce que c'est toujours bien ce que sont ces déchets? C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est suffisamment contrôlé, documenté?
Non. Alors déjà, d'une part, vous avez des déchets à proprement parler, c'est-à-dire ce qui partait vers l'Asie et ce qui part vers certains pays asiatiques encore maintenant, c'est des déchets de plastique, des déchets de papier. En fait, il y a eu des consignes de tri et de collecte des déchets dans les pays développés, mais qui n'ont pas été accompagnées par une industrie permettant le recyclage. Donc finalement, ça partait vers les pays asiatiques où, avec le papier carton, ça faisait du bourrage d'emballage pour les biens de consommation qui revenaient dans l'autre sens. Donc on n'a pas du tout anticipé la filière dans son entier. Ça, c'est déchets, avec parfois des déchets toxiques interdits d'exportation. Mais le problème du trafic conteneurisé, c'est qu'il y a très peu de contrôle et que c'est difficile de faire un ciblage dans les ports, parce qu'en plus de ça, il faut que ça aille vite, c'est aussi la dictature du temps, il faut que l'escale soit courte. Et puis vous avez aussi tout un tas de matériaux, soi-disant des dons, du recyclage, qui finalement sont des véhicules hors d'usage, qui sont interdits d'utilisation en Europe par exemple, parce que trop polluantes, etc., et qui partent vers les pays, notamment africains, où là c'est des accidents de voiture, de la pollution atmosphérique. Et il y en avait un certain nombre, donc à peu près 2000 à bord du Grande America. Donc c'est une casse automobile qui est au fond de l'eau, plus tout ce qu'il y avait dans les conteneurs.
Il y a un problème de contrôle aujourd'hui encore, Olaf Merck, sur les cargaisons de ces porte-conteneurs.
Il y a des réglementations, mais il y a aussi et surtout peut-être un problème de implémentation de contrôle, parce que, et c'est là où on retrouve le monde maritime mondialisé, c'est surtout maintenant on a vraiment un secteur qui est mondialisé dans le sens où des entreprises sont vraiment un peu partout, et surtout la responsabilité pour le contrôle, c'est souvent dans des États qui peuvent finalement pas le faire. C'est on a des pavillons de complaisance, et ça fait que ces États sont responsables pour quelque chose où ils n'ont pas la capacité. Pour moi, c'est ça.
Ça veut dire que c'est pas forcément les textes, ce sont pas forcément les conventions internationales qui manquent, mais c'est la possibilité ou la volonté de les appliquer, c'est ça?
Oui, il y a ça. Du coup, souvent, les contrôles sont faits à peu près dans les ports, dans le monde développé. Mais il y a un vrai problème. Qu'est-ce que fait Panama? Qu'est-ce que font les autres États qui sont finalement responsables pour les plus grandes flottes du monde, mais bon, qui n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit.
Sur les questions de pollution, alors on a évoqué les pollutions qui peuvent être liées à des naufrages, à des accidents, la pollution qui est celle de ces grands paquebots qui arrivent dans les villes. Mais alors quand on regarde les chiffres de la contribution, on va dire, du transport maritime aux émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui c'est 3%. Alors avec quand même des projections de l'Organisation maritime internationale disant si le transport maritime se développe au même rythme, ça va être beaucoup plus important, autour de 15%, je crois, d'ici 2050. J'ai plus les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est à peu près de cet ordre-là. Paul Touré, il y a eu une déclaration en décembre 2017, qui est la déclaration Tony de Brume, qui est un ancien dirigeant des îles Marshall, qui est décédé depuis, qui a appelé à un transport maritime décarboné d'ici à 2050. Est-ce que c'est un objectif qui vous paraît réaliste?
Dire 2050, ça paraît effectivement tellement loin qu'on a du mal à comprendre si c'est applicable. Ce qui est intéressant, c'est que le transport maritime y va. Jusqu'à présent, on a eu un débat pendant à peu près une dizaine d'années sur les gaz à effet de serre produits par la combustion du fioul maritime, qu'effectivement sur les SOx et les NOx, je renvoie sur Internet pour les définitions exactes, où le transport maritime était un gros contributeur puisqu'il brûlait des carburants effectivement très malpropres, on va dire, comme des centrales thermiques. Maintenant, on s'engage véritablement sur autre chose, c'est-à-dire de réduire finalement l'utilisation des combustibles dans le transport maritime sur pratiquement, ça nous fait quoi, pratiquement 30 ans. Alors effectivement, on peut essayer avec de l'électrique, des énergies renouvelables qu'on stockerait, avec de l'hydrogène, avec le vélique, le vent, le kite, tout ce qu'on peut essayer. C'est intéressant. On va dire que le transport maritime rentre dans le 21e siècle, un peu poussé, on va dire, par les contraintes environnementales et puis les exigences sociétales à l'échelle du monde. Mais le transport maritime sait qu'il doit évoluer. Alors lui donner 30 ans, finalement, c'est lui donner une capacité d'évoluer relativement aisée. Mais la pression est là et l'innovation est là. Donc il ne faut pas totalement désespérer du transport maritime. Et encore une fois, les politiques publiques, du soutien à la recherche ou des contraintes réglementaires sont là pour faire avancer un milieu qui sinon aurait gardé son fonctionnement comme il y a 30 ans, puisqu'il ne progresse, encore une fois, comme on l'a dit, que par la contrainte.
Le bateau à hydrogène, par exemple, le Charlotte Nitard, ça c'est une piste qui est intéressante. Alors je vais citer un article du Parisien qui est consacré au Energy Observer, qui est un bateau français hydrogène. L'article dit ceci: s'il est une ressource abondante en mer, c'est bien l'eau. Pompée, désalinisée, elle est utilisée pour produire de l'hydrogène, ensuite transformée en électricité. C'est vrai que quand on prend en compte le fait que cette ressource extrêmement abondante peut servir à propulser les navires, on se dit qu'il y a quand même de quoi être pas seulement un pessimiste, disons, par rapport à l'évolution du transport maritime.
Oui, il y a plusieurs prototypes, plusieurs essais. Il y a aussi des navires marchands à voile ou au moins pour certaines périodes. Ce qu'il y a, c'est que nous, on surveille beaucoup la démolition des navires et de ces prototypes, on en voit quand même pas mal arriver à la casse. Ce que je veux dire, c'est que oui, on peut être optimiste et je le suis, mais sans attendre 2050, il y a des efforts à faire d'ores et déjà pour réduire les émissions des navires qui sont à l'heure actuelle sur l'océan mondial. Il n'y a pas seulement les gaz à effet de serre, il y a aussi les particules fines. Et puis un navire, c'est son fuel de propulsion. C'est vrai que sur un gigantique, comme vous le citiez tout à l'heure, de 400 mètres, les plus gros porte-conteneurs à l'heure actuelle dans le monde, de fuel de propulsion dans les réservoirs, c'est 10 à 12 000 tonnes. Faut quand même, c'est énorme. Donc ça vous fait une marée noire aussi en cas de pépin en soi-même. Ces navires qui consomment énormément, excusez-moi, j'ai perdu le fil.
il faudrait quoi ? Il faudrait qu'ils circulent moins, qu'ils circulent moins chargés.
Moins vite, déjà qu'ils soient moins gros, qu'ils circulent moins vite. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la pollution atmosphérique. Merci. Mais il y a aussi, je vous ai dit, les dragages qui vont avec. Il y a aussi le bruit sur le milieu marin, avec des forts impacts sur toutes les chaînes alimentaires marines. Ça va des baleines jusqu'aux poissons, et le bruit qui va doubler, paraît-il, d'ici 2030. Donc le shipping a plusieurs possibilités pour réduire son impact. Ça passe effectivement, on le pense, vers une réduction de la taille des navires, réduction aussi de la vitesse. Et puis la question de fond aussi, c'est cette mondialisation, cette surconsommation et souvent ce gaspillage quand même. Est-ce que vraiment, à notre avis, c'est plutôt là aussi qu'il faut prendre le problème. C'est-à-dire, il y a un aspect politique de la part des Chinois de vouloir maintenir un niveau de commerce international aussi fort. Et c'est pour ça aussi qu'ils investissent beaucoup dans des ports, y compris dans des ports européens. Ils ont racheté le port du Pirée.
Qu'est-ce que l'OCDE préconise justement en la matière, Olaf Merck? Alors j'ai vu qu'il y avait eu un rapport récent sur ces questions, où il était notamment question de la diminution de la vitesse des bateaux. Mais alors ça... pour faire accepter ça aux armateurs, justement, à ces grandes sociétés, ça risque d'être assez compliqué, parce que quand on doit livrer le plus vite possible. Et d'ailleurs, quand on est consommateur, c'est bien ce qu'on demande en général, c'est d'être très vite livré. Donc, comment est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable aujourd'hui?
Oui, c'est possible, c'est faisable, mais il faut aller vite. C'est surtout ça le problème. Quand on regarde,
c'est-à-dire il faut aller vite pour aller moins vite.
Voilà, il y a ça, mais il faut aller vite pour investir dans des bons navires, des bonnes technologies, etc. Parce que quand on investit dans un navire, c'est pour 20 ans, pour 30 ans, etc. Alors si on parle de 2050 pour être à zéro ou à 50%, parce que c'est ça finalement le OMI, l'objectif des pays de l'OMI.
L'Organisation Maritime Internationale.
Voilà, il faut aller vite pour faire ça. Bon, il y a plusieurs...
Mais sur la vitesse des bateaux.
Sur la vitesse, c'est une des trois moyens, on va dire. Hein. Il y a des carburants alternatifs et les énergies renouvelables. Il y a aussi les techniques des navires, on va dire, comment on construit des navires. Et finalement, ici, des questions opérationnelles, comme la vitesse. La vitesse, finalement, c'est une proposition intéressante parce que les armateurs, en tout cas un grand monde, sont quand même intéressés dans ces propositions. Pourquoi ? En fait, parce qu'ils auront pas mal de navires qui ne les utilisent pas pour l'instant. Il y a une surcapacité des navires. Du coup, ces navires-là, on peut utiliser pour... Si on va moins vite, on a besoin de plus de navires pour quand même faire la même chose. Du coup, pour eux, ce sera un moyen de rentabiliser leur navire. Alors, c'est pas exactement là le problème. C'est plutôt le problème chez les chargeurs qui ont besoin de vitesse, qui pensent que ça peut se faire en 20 jours, mais finalement ça devient 30 jours. Et c'est là qu'il faut trouver une possibilité. Par exemple, avoir des garanties que ce soit plus fiable, parce que c'est ça aussi un problème maintenant dans le transport maritime. Et moi, je crois que si on trouve une sorte de compromis où c'est possible d'aller moins vite, mais que ce soit plus fiable, déjà, ce sera, à mon avis, ce sera possible.
Davantage de fiabilité et un peu moins de vitesse, Paul Touré ?
La vitesse, alors on va parler comme consommateur. Moi, que le produit qui arrive de Chine, il arrive au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai, tant que je peux l'acheter au moment où j'en ai besoin, au mois de juillet, j'allais dire, c'est pas grave. Et je crois que c'est pour ça, en plus, que la vitesse, elle fait économiser beaucoup d'énergie, elle utilise les navires, comme a dit Olaf. Il n'y a pas de souci là-dessus. La question qu'il y a derrière, c'est a-t-on besoin d'un transport maritime pour transporter tout ce qu'il y a à transporter. Et ça pose la vraie question de la démondialisation, c'est-à-dire comment on va définir ça. Tout à l'heure, j'ai dit cette hyper-globalisation, mais c'est cet hyper-consumérisme à l'échelle planétaire qui fait qu'on consomme des produits manufacturés de Chine, mais ça peut venir de partout. Et les Asiatiques consomment aussi des produits européens. Et là, c'est la vraie question qu'il y a derrière. Ce transport maritime répond finalement à un monde global, qui est un monde de libre-échange avec la Chine dans l'OMC depuis 2002. Et aujourd'hui, qui fait que... Rappelons-nous qu'un supermarché américain comme Walmart, tous les produits qui sont made in China dedans peuvent être construits aux États-Unis. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun produit qui mérite de traverser le Pacifique, à part le prix qu'on veut offrir aux consommateurs américains ayant eux-mêmes élu en partie Donald Trump, voulant réduire la fracture commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc là, on finit par ce serpent qui est maritime, qui se mord la queue, parce que derrière, se pose la question de ce qu'est ce monde, on l'a dit pour le tourisme, mais aussi pour la consommation et son mode de vie.
Vous évoquiez tout à l'heure, Charlotte Nittard, la possibilité de revenir à du transport de marchandises sur des bateaux à voile. Là aussi, il y a des sociétés qui se développent. Il y en a une qui s'appelle TOWT, T-O-W-T, qui a créé un label, label Anemos, qui permet de voir sur les produits qu'on achète que ça a été justement convoyé dans des conditions de respect de l'environnement. Est-ce que cette piste-là vous paraît intéressante, ou bien est-ce qu'il faut aussi solliciter les consommateurs, les responsabiliser, leur faisant comprendre que plus on achète des produits qui viennent de loin, plus forcément ça va aggraver, on va dire, cette question du transport maritime international?
Je pense qu'il faut regarder le cycle d'un produit dans sa globalité, si possible. Mais c'est vrai que pour le consommateur, c'est quand même un casse-tête. Mais il faut regarder comment le produit a été transporté. Mais il faut aussi regarder comment il a été fabriqué. Et c'est là, effectivement, où il y a des disparités. Et finalement, c'est moins cher de faire venir de l'autre bout du monde que d'acheter de proximité, parfois, hein, pas toujours. Mais c'est de voir le coût, le juste prix des travailleurs, le juste prix des protections de l'environnement dans les pays de fabrication, et de voir le juste prix aussi du transport en intégrant les coûts externalisés dont on parlait tout à l'heure, infrastructures portuaires et autres. Donc c'est quand même le consommateur qui a la clé, et donc c'est à lui de décider aussi le monde qu'il souhaite.
On pourrait imaginer, Olaf Merck, des labels, comme il en existe pas mal, hein, pour les produits de consommation, mais qui mettrait en avant le mode de transport du produit que l'on achète.
Est-ce oui, on peut imaginer ça. Pour moi, le vrai problème, c'est finalement que le transport maritime, c'est trop peu cher. C'est vraiment ça. Pourquoi c'est trop peu cher? C'est parce qu'il y a des subventions, parce qu'il y a des exonérations fiscales, parce qu'il y a une évasion de réglementation, parce qu'il y a des coûts externes. Et tout ça fait que finalement le coût de transport maritime, il est très très bas, qui facilite un modèle d'économie mondialisée. Mais finalement, si on mettait tous ces coûts dans le prix d'un produit, peut-être ce sera effectivement un modèle plus démondialisé. Mais bon, il faut trouver un moyen de mettre ça dans le prix de produit.
Un tour dernier mot, Paul Touré, ce sera la conclusion.
Alors peut-être il faut aller vers l'éco-comptabilité environnementale, c'est-à-dire qu'on calcule véritablement en CO2 ou en watts de consommation ce que fait un produit sur la planète et qu'on l'applique. Alors effectivement, ça fait un peu taxe, mais comme l'a dit Olaf, on peut pas se permettre d'un transport maritime qui quelque part effectivement est à vil prix et d'un autre côté se poser les questions à tous les niveaux. Et peut-être que l'avenir de en 2050, c'est plutôt qu'on sache exactement combien coûte le transport d'un produit sur la planète et que c'est un vrai coût environnemental. Pour qu'à la fin, peut-être une base de baseball soit fabriquée aux États-Unis et pas en Chine, parce que c'est peut-être la meilleure idée environnementale qu'on puisse avoir.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Paul Touré, Charlotte Nittard et Olaf Merck. Discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger l'émission et nous écrire toujours sur la page de l'émission. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Virginie Leduo, Jordan Joseph et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras avec à la prise de son Anthony Thomasson.